Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient comme tous les jours. RFI vous propose de commenter l'actualité et ce matin, nous parlerons ensemble de la Libye. 4 ans jour pour jour après le début de la révolution qui a permis la chute de Muammar Kadhafi, eh bien la Libye est plus que jamais en proie à l'anarchie. 2 gouvernements et 2 parlements se disputent le pouvoir. Du coup, ce vide politique est propice à l'essor des groupes armés. On le voit, le pays est aujourd'hui déchiré par les violences et depuis quelques mois, l'organisation de l'État islamique a même fait son apparition sur le territoire libyen. Alors comment mettre un terme à ce chaos? Faut-il privilégier la solution politique, comme le préconisent d'ailleurs la France, les États-Unis ou encore la Grande-Bretagne? Ou pensez-vous que l'ONU doit donner son feu vert à une force internationale? C'est en tout cas ce que réclame le président égyptien Al-Sisi. L'Italie, de son côté, a déjà proposé de déployer sur le terrain 5000 soldats. On en parle ensemble et vous êtes déjà nombreux, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission, plus de 800 messages postés. 33 9 693 693 70, c'est le numéro du standard. 09 693 693 70, si vous nous appelez de France. Mais d'abord, comme tous les matins, votre rendez-vous avec la rédaction d'RFI, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Avec nous, Cabinet, qui nous appelle de Sikasso, c'est au Mali. Bonjour à vous.
Bonjour, Juan Gomez.
Bienvenue sur l'antenne d'RFI. Vous avez des questions concernant Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien qui multiplie les appels aux Juifs d'Europe.
Oui, bien entendu. Ma question concerne principalement les Juifs de France.
Oui.
Qui, ces derniers temps, sont victimes de beaucoup d'actes antisémites et terroristes. Et à chaque fois, le premier ministre Benjamin Netanyahou s'invite dans le débat pour appeler ces Juifs-là à émigrer en Israël. Alors moi, ma question, c'est qu'est-ce qui peut expliquer ces appels répétés de Benjamin Netanyahou?
Oui, on se souvient notamment de cet appel lancé après les attentats commis à Paris le mois dernier contre la rédaction de Charlie Hebdo et contre le supermarché Kacher. Et dimanche, quelques heures après la double attaque terroriste perpétrée à Copenhague au Danemark, eh bien Benjamin Netanyahou a une fois de plus appelé les Juifs d'Europe à venir en Israël. Aux Juifs d'Europe comme à ceux du monde entier, je peux dire qu'Israël vous attend les bras ouverts. Fin de citation. Bonjour Nicolas Falaise.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service international d'RFI. Ce qu'il faut dire d'ores et déjà, Nicolas, c'est que ces appels ne sont pas spécifiques à Benjamin Netanyahou.
Non, l'appel par l'État d'Israël à la venue des Juifs du monde entier, c'est l'un des piliers de ce qu'on appelle le sionisme. Le sionisme, c'est ce mouvement politique qui apparaît en Europe à la fin du 19e siècle et qui projette d'établir un État juif qui serait l'État-nation des Juifs du monde entier, les Juifs en tant que peuple. Alors on le sait, l'État d'Israël voit le jour en 1948 et depuis, il incite les Juifs du monde entier à devenir des citoyens israéliens. Alors il y a pour cela des instruments, une loi par exemple, la loi du retour, qui permet aux Juifs de prendre la nationalité israélienne. Il y a aussi des institutions comme l'agence juive qui encourage l'immigration en Israël des Juifs de la diaspora. Alors, il est vrai que cet appel prend une dimension particulière, hein, selon la situation dans certains pays du monde et à certains moments de l'histoire. C'est le cas actuellement avec l'Europe et la France. On sait qu'il y a eu ces dernières années des attaques antisémites violentes en France contre une école juive à Toulouse et tout récemment contre une épicerie cachère à Paris. On peut aussi citer la profanation du cimetière juif de Sarre-Union ces derniers jours dans l'Est de la France. Alors, bien sûr, ce climat peut peser sur le choix d'un certain nombre de Juifs français. La communauté juive de France est la plus importante d'Europe. Il y a environ 1,5 million de Français de confession juive.
Oui, et d'ailleurs l'année dernière, près de 7 000 Juifs de France ont quitté la France pour s'installer en Israël, ce qui est un record.
Oui, une forte augmentation. Ils étaient environ 3 000, la moitié moins, l'année précédente. Alors, vu d'Israël, ce phénomène, c'est le signal qu'il faut se préparer à accueillir davantage de juifs qui se décideraient à quitter l'Europe. Un plan spécial de plus de 45 millions de dollars vient d'être adopté par le gouvernement israélien pour favoriser la venue des juifs de France, de Belgique et d'Ukraine, qui souhaiteraient en tout cas s'installer en Israël. Alors on le disait, cet appel fait partie des structures israéliennes. Il n'est pas spécifique à l'actuel Premier ministre Benjamin Netanyahou, mais on peut se dire que c'est une position qui est conforme à sa vision nationaliste. C'est un dirigeant de droite. Pour Benjamin Netanyahou, Israël est le refuge naturel des juifs du monde entier. Quant à savoir s'ils sont aujourd'hui ou demain davantage en sécurité en Israël, c'est évidemment un autre débat.
Oui, en tout cas, en France, l'appel de Benjamin Netanyahou a suscité, on l'a vu, une certaine gêne. On se souvient des propos de Manuel Valls, le Premier ministre, qui avait répondu « La France sans les juifs n'est plus la France ». Réaction similaire, il y a quelques jours, au Danemark, après donc cette double attaque et ce nouvel appel de Benjamin Netanyahou, le plus grand, la plus haute autorité de la communauté juif du Danemark s'est dit déçu par les propos du Premier ministre israélien. Si notre façon d'affronter la terreur est de nous enfuir quelque part, alors nous devrions tous partir sur une île déserte, a déclaré donc ce grand rabbin du Danemark. Merci à vous Nicolas Falaise d'avoir été avec nous. On remercie le cabinet qui nous appelait de Sikasso au Mali. Nous avons reçu ces derniers jours plusieurs questions sur l'enquête SwissLeaks. On les a donc compilées et c'est Agnès Kakoumor du service économique d'RFI qui est à mes côté et qui va vous répondre. Bonjour Agnieszka.
Bonjour.
Vous suivez ce dossier, cette enquête qui a été menée, rappelons-le, par plusieurs journaux internationaux, dont le quotidien français Le Monde. Au début du mois, nos confrères ont révélé les pratiques d'évasion fiscale de la filiale de HSBC en Suisse. C'est sans doute, on peut le dire, l'une des plus grandes affaires d'évasion fiscale à l'échelle planétaire qui a été dévoilée par la presse. Première question, Junior, bonjour.
Bonjour, monsieur Juan Gomez, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous êtes à Kinshasa, on vous écoute.
Ouais, monsieur Juan, j'ai appris l'affaire SwissLeaks dans les médias. N'est que la partie émergée de l'iceberg qui a été révélée. Ma question était celle de savoir quelle est l'ampleur de l'évasion fiscale au jour d'aujourd'hui.
Ah, l'ampleur de l'évasion fiscale. Ce qu'il faut dire d'abord, Agnieszka, c'est que selon l'enquête révélée par nos confrères, ce sont des chiffres qui datent de 2006-2007. On estime que ce sont plus de 180 milliards d'euros qui appartiennent à 100 000 clients qui ont été, qui ont transité clandestinement par les comptes de la filiale HSBC à Genève. Ce sont donc des données qui portent sur la période 2006-2007. Que sait-on de l'ampleur planétaire de l'évasion fiscale aujourd'hui?
Il est difficile d'évaluer avec précision ce que coûte l'évasion fiscale à l'économie mondiale. Le montant final dépend du mode de calcul, de la nature des capitaux détournés. Deux chiffres reviennent le plus souvent. L'économiste britannique Gabriel Zucman, spécialiste de la fraude fiscale, estime que 5 800 milliards d'euros sont dissimulés dans les paradis fiscaux. Dans son rapport de 2014, l'ONG American One arrive à un montant beaucoup plus gros. Il s'agirait, selon elle, de quelque 18 000 milliards d'euros. Dans l'ensemble de l'Union européenne, la fraude coûterait aux pays membres 1 000 milliards d'euros par an. Le fisc américain, quant à lui, évalue à ses pertes à 330 milliards de dollars par an. Un manque à gagner est pharaonique pour les États.
Quoi qu'il en soit, effectivement, le manque à gagner est important. Autre question, elle nous vient d'Abidjan. Olivier, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Juan et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
On vous écoute avec Agnès Kakoumor.
Oui, justement, toujours sur cette même affaire de SwissLeaks, justement, j'aimerais savoir, est-ce qu'il existe une structure qui est chargée de lutter contre les évasions fiscales? Et si elle existe, cette structure, quelles sont ses méthodes? Et puis, pourquoi ces méthodes sont insuffisantes vu l'ampleur de ce fléau?
Agnès Kakoumor.
Depuis plus de 100 ans, en fait, les États luttent contre l'évasion fiscale de leurs contribuables vers les banques étrangères. Depuis la crise financière de 2008, des accords bilatéraux d'échange d'informations se sont multipliés. Parallèlement, des lois contre tout simplement le blanchiment d'argent, par exemple, sont en vigueur dans de nombreux pays, notamment en Suisse depuis 1998. Et pourtant, sur le listing de HSBC, il y a aussi des trafiquants de drogue. Il en est est ainsi parce que les mécanismes de contrôle sont défaillants, comme vous le dites, Olivier. Et il manque un dispositif au niveau mondial pour que l'échange d'informations devienne automatique et pas sur la demande. Ce manque devrait bientôt être comblé avec la signature d'un accord international en octobre dernier à Berlin, à la demande de G20, sous l'impulsion de l'Organisation de coopération et de développement économique, plus de 80 pays se sont engagés à combattre l'évasion et la fraude fiscale. Les premiers vont commencer à échanger des informations dès 2017 et pour une trentaine d'autres, ce sera en 2018. Parmi les signataires, eh bien, l'Autriche et la Suisse, deux chantres du secret bancaire, mais aussi d'importantes places financières comme les Bahamas ou les Émirats arabes unis.
Donc 80 pays qui s'engagent à combattre l'évasion fiscale, la fraude fiscale. Concrètement, ces pays s'engagent à quoi ? Puisqu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose.
Ils vont désigner chez eux une autorité nationale qui collectera les informations fiscales et les transmettra aux autres États. Objectif de cela, chaque administration fiscale aura connaissance des avoirs financiers placés à l'étranger par ses contribuables. Cet accord s'inspire de la loi FATCA, d'ailleurs votée aux États-Unis en 2010, qui, malgré ses faiblesses, reste l'outil le plus efficace contre l'évasion fiscale. Avec l'accord de Berlin, on pourrait dire que la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale prend de l'ampleur. Paradoxalement, les États-Unis qui ont servi de modèle, eh bien, ne figurent pas parmi les signataires. Eh bien, ils préfèrent s'en tenir à leur loi FATCA. Si l'accord de Berlin ne met pas fin, en fait, au secret bancaire, il est une première étape vers son abolition définitive. Eh bien, l'étape suivante, par exemple, pourrait constituer la création d'un registre mondial coordonné, par exemple, par le Fonds monétaire international et doté d'outils de vérification des données transmises par les banques et les États.
Beaucoup de questions au standard hein, sur cette enquête, après les révélations donc de la presse internationale. Michael, bonjour.
Bonjour, Van Gomes.
Vous nous appelez de Bougandé, c'est au Burkina Faso.
Oui.
On vous écoute.
Toujours dans cette même optique de ce scandale à forte odeur d'argent, les pays africains ne sont pas exempts. Alors ma question, c'est de savoir quel est le degré d'implication de nos leaders politiques africains.
C'est vrai que l'Afrique n'est pas épargnée par ce scandale. Un certain nombre de dignitaires africains semblent être impliqués dans cette affaire. Il y a plusieurs noms qui reviennent, notamment le roi du Maroc, Mohamed VI, mais aussi l'ancien ministre égyptien du commerce et de l'industrie, Rachid Mohamed Rachid. Concrètement, quel est le degré d'implication des chefs d'État, des responsables africains?
Oui, les ressortissants effectivement de différents pays africains sont cités sur le listing. On mentionne l'Égypte, la Tunisie, le Sénégal, la Zambie, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, la Guinée. Je vous rappelle que le fichier de HSBC porte sur la période 2005-2007. La justice devrait nous éclairer sur le degré d'implication des dirigeants de l'époque. Une enquête a été notamment ouverte en Tunisie, où une dizaine d'hommes d'affaires sont impliqués dans le scandale. Parmi les clients de HSBC, on trouve des hommes d'affaires et des industriels proches du pouvoir en place, qui ont pu bénéficier des droits d'exploitation lucratif ou d'intérêts commerciaux dans les zones de guerre en Angola, au Liberia, en Sierra Leone ou encore en Guinée. Et puis d'autres personnalités, notamment l'Ivoirien Patrick Bédier, le fils de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédier, qui a fait carrière dans le négoce du café cacao.
Et on peut également citer l'exemple du Mali, puisque sur place, une association de lutte contre l'impunité et contre les malversations vient de lancer une pétition adressée aux autorités de Bamako pour demander des poursuites et surtout l'ouverture de poursuites, car cette enquête révèle que 68 Maliens auraient détourné près de 107 millions de dollars. Agnieszka, l'Afrique, c'est aussi de nombreux clients diamantaires de HSBC.
Oui, les clients diamantaires, valeur refuge, compact, stable, transmissible. Les diamants, il faut le savoir, présentent d'énormes avantages pour les trafiquants qui veulent blanchir de l'argent et qui fraudent le fisc. Certains d'entre eux sont recherchés par la justice internationale, d'autres sous le coup d'arrêt émis par Interpol, notamment dans les affaires du trafic de diamants de sang, hein, vous vous souvenez, vendus en toute illégalité, ces diamants ont alimenté les différents conflits armés, provoquant un désastre humanitaire. Le processus de Kimberley, signé en 2003, vise à supprimer ce trafic, et bien, mais la guerre civile en en République centrafricaine l'a rappelé une fois encore, le département d'État américain a pointé le financement des Seleka, groupe rebelle musulman responsable du coup d'État en 2013, par Badika, une entreprise diamantaire centrafricaine.
Merci pour toutes ces informations, Agnès Kakoumor. Il nous reste 5 minutes, on va passer à un tout autre sujet. On va pas s'intéresser maintenant à la cyberdéfense. Richard a des questions, il nous appelle de Brazzaville. Bonjour Richard.
Oui, bonjour Juan, oui, exactement. J'ai suivi récemment que les États-Unis prévoyaient de créer un centre contre les cyberattaques. Alors je voulais savoir le fonctionnement de ce centre-là, ainsi que leurs moyens. En fait, quels sont les pays qui représentent, si vous voulez, la menace potentielle la plus évidente aux yeux des États-Unis?
C'est vrai que Washington veut renforcer son arsenal contre les cyberattaques. Les États-Unis vont se doter d'un centre d'analyse des cyberattaques. Alix Zéforge est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct. Vous êtes chercheuse en cyberstratégie à la chaire Castex. L'idée de Barack Obama et de son administration, c'est de mettre en place un outil similaire à celui qui a été construit après les attentats du 11 septembre pour lutter contre le terrorisme. Mais là, il s'agit de lutter contre les cybercriminels.
Oui, tout à fait. Il s'agit de lutter contre les cybermenaces. En fait, le but de cette agence, c'est de centraliser les informations afin de les partager. L'agence sera alimentée par les différents organes de l'État qui travaillent actuellement sur ces questions, donc le FBI, la CIA, la NSA, mais également par les entreprises américaines qui sont elles-mêmes victimes des attaques.
D'accord. On présente aujourd'hui la cybercriminalité comme l'une des plus grandes menaces modernes qui pèse aussi bien sur les États que sur les entreprises. Quels sont les, c'est pour répondre à la question de Richard, quels sont les pays qui représentent la plus grande cybermenace pour les États-Unis?
Alors, en matière de menaces, les États-Unis dénoncent régulièrement la responsabilité de l'État chinois. C'est un discours que l'on entend également beaucoup en Europe. Et puis, plus récemment, dans l'attaque contre Sony Pictures à la fin de l'année 2014, qui a fait la une de l'actualité, les responsables américains ont alors accusé la Corée du Nord. Mais ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que l'attribution des attaques informatiques, c'est quelque chose de très compliqué. On peut être certain de rien et les agences, en fait, raisonnent davantage sur ce qu'on appelle les faisceaux d'indices et communiquent très peu, en fait, sur les indices en question, ce qui ne laisse pas beaucoup l'opportunité de juger. Donc, en fait, avoir une idée précise des acteurs qui représentent la plus grande menace, c'est un exercice difficile. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est que plusieurs États développent des capacités offensives dans le cyberespace pour mener des opérations, espionnage, criminalité, enfin pas au niveau des États, mais espionnage, attaques dans le cadre d'opérations des forces armées. Après, connaître leur niveau précis de capacité, c'est des questions extrêmement difficiles parce que ça relève des questions de souveraineté et ces informations sont hautement classifiées. En gros, si on veut à peu près brosser un grand panorama, il y a plusieurs États qui développent des capacités offensives, les États-Unis bien sûr, la Royaume-Uni, l'Allemagne, la France en fait partie aussi, Israël, la Russie, la Chine ou encore l'Iran. En fait, on retrouve les grandes puissances mondiales, puisque des attaques informatiques s'inscrivent dans le contexte géopolitique mondial.
Ce qui se dit, Alix Desforges, c'est que pour lutter efficacement contre les cybermenaces, il faut forcément impliquer les géants du net. On pense évidemment à Microsoft, Facebook, Google et les autres. Les obliger à coopérer avec les agences de renseignement. Et là, pour le coup, c'est extrêmement dur. Elles ne sont pas forcément d'accord de coopérer avec la CIA et le FBI.
Bien sûr, ça révèle aussi d'une dynamique dans un monde post-Snowden où aujourd'hui les géants du net leurs images ont été fortement écornées par les révélations de Snowden et notamment dans leurs relations qu'ils ont eues avec les agences de renseignement américaines. Et donc aujourd'hui, effectivement, ces géants du net prennent la patte pour coopérer. Néanmoins, effectivement, pour lutter contre les cybermenaces, ça passe fatalement par une meilleure coopération et notamment avec ces entreprises mais aussi entre États.
Et c'est en tout cas ce que cherche à faire Barack Obama. Merci beaucoup Alix Desforges, chercheuse en cyberstratégie à la chaire Castex. Reste avec nous dans un instant, le journal.